On est content d'être dans la maison de Dieu. Ce matin, j'écoutais le petit reportage sur l'émission, puis on est béni d'être au Québec. Parce que mercredi, on parlait de Paul comme vase d'élection, puis on parlait que Paul, il a souffert aussi pour sa foi. Puis j'avais regardé dans l'émission, puis je regardais dans les pays comme le Mozambique, puis le Nigeria, puis tous ces pays-là, puis comment de gens meurent pour leur foi encore en 2025. Comment est-ce qu'ils sont persécutés? On est béni d'être au Canada. On est béni. Puis je pensais tantôt, lorsque notre sœur a parlé des témoignages, venons témoigner. Puis en passant, bien, je vais vous en faire un petit cours, même si ce n'est pas, rendu au mois de mai déjà. Ma fille, elle veut s'en venir parce qu'on est arrivé, on est au Inegama, puis ma fille veut s'en venir par ici. Fait que cette semaine, on y surveille des maisons. Fait que cette semaine, on voit passer sur Internet une maison. Fait que finalement, j'appelle pas tout de suite parce que. Puis on rencontre la sœur à ma femme, puis on va voir la maison, puis la madame en même temps sort, puis elle nous accueille, puis on rentre dans la maison, on visite la maison. Puis j'appelle ma fille, puis je dis, hey, super, ça devrait être bon pour toi, puis tout le kit, puis. Ça fait que ça reste comme ça. Puis quand j'étais ici mercredi, mon téléphone a sonné. Jusque quand je me levais debout pour m'en venir en avant, c'était ma fille. Parce que le monsieur l'a rappelé, puis ils ont commencé des démarches puis des affaires. Puis elle a dit, pa! Elle a dit, il est super. Elle dit, lui, Dieu, c'est très important pour lui. Tu sais, elle dit, j'y ai juste dit que tu avais déjà été pasteur. Il me dit que lui aussi, sa foi, c'était très important pour lui. Puis elle dit, elle a commencé à me parler de son témoignage. Puis ma fille qui m'appelle pour me dire ça, là, puis elle ne va plus vraiment. Mais ce gars-là, il me rappelait après, il est super convaincu de Dieu. Lui, il dit, en 2015, Dieu, il a tombé sur lui, il est resté là pendant 45 minutes, puis il a été vraiment totalement changé, transformé, puis là, il s'occupe des groupements d'hommes, puis en tout cas, il dit, mec, vous venez visiter la maison avec ta fille, il dit, on va prier ensemble, puis ils ont prié que Dieu fasse un œuvre à travers ça. Ah, tu sais, il était super convaincu. Gloire à Dieu! Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui. Amen. Puis c'est vrai ce que notre sœur dit. Si on témoigne son nom, puis on témoigne ce que Dieu fait, Dieu va faire de plus grandes choses encore. Ce matin, on va parler approchable. Qu'est-ce que ça veut dire le mot approchable? Ça veut dire les gens qui me côtoient, est-ce que je suis approchable? Est-ce que c'est facile de m'approcher ou est-ce que c'est difficile? Dans mon cas, c'était difficile de m'approcher parce que des fois, j'étais comme fermé, je suis fermé souvent. Fait que faut que je me force. Mais aujourd'hui, on va lire parce que quand Gaëtan me dit que j'amenais la parole de 13, j'ai dit, ah, c'est dimanche des rameaux, ça. Gaëtan qui me dit ça, dimanche des rameaux. Mais dimanche des rameaux, je me souvenais quand on était jeune, on tressait encore les rameaux, hein, quand on était jeune. Qui a tressé des rameaux ici, là? Hein? Je vais vous lire quelque chose. Bien, le premier verset, il est long, je vais vous le lire. C'est Luc 19, ceux qui ont leur Bible peuvent lire aussi, c'est de 28 à 42. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Béphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. » Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres lui dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends des disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Si on ne témoigne pas, les chaises vont parler. C'est quasiment ça que ça veut dire. Il faut témoigner son nom, il faut le glorifier. Je vous l'ai dit, c'est sa tête, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » C'est tout un passage. Jésus rentre à Jérusalem sur un ânon, les gens étendent leurs vêtements sur le chemin, la multitude des gens loue le Seigneur. Jésus rentre à Jérusalem pour accomplir la prophétie de Zacharie 9:9 qui dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Puis une autre version, ça dit, au lieu de « il est juste et victorieux », il a dit « il est plein de douceur ». Un Jésus plein de compassion, humble, plein de douceur, plein d'humilité. Puis dans ce récit-là, on dirait que le Luc, qui est le témoin oculaire de ces choses, il se plaît, on dirait, à souligner l'approche de Jésus à Jérusalem. Jésus savait que son temps approchait, mais dans ce verset-là, cette lecture-là, on dirait que Luc se plaît à montrer que ça approchait, son temps approchait, son temps approchait. Puis j'ai sorti quelque chose dans le texte, comme le verset 29, ça dit, « Lorsqu'il approcha de Béphagée, de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, » puis il continue, le verset 37, ça dit, « Et lorsque déjà il approchait, » il veut nous montrer que vraiment les choses s'en viennent, puis il s'en va vers vraiment où son temps, où il allait donner sa vie. Puis ça continue encore, le verset 41, il va dire, « Et comme il approchait de la ville, » fait que ça nous montre qu'il approchait vraiment de sa fin. Puis il approchait de son destin qui était de donner sa vie pour le péché. Puis lorsque je vois ça, dans cette approche-là, mais je regarde comment Jésus se comportait au milieu de ça. Il me semble que moi, j'aurais pu être approchable bien, là. Hein? J'aurais essayé de me retirer, j'aurais essayé de me préparer, j'aurais essayé de... Mais on voit Jésus au milieu de la foule, une foule en avant, une foule en arrière. Comment est-ce qu'il reste encore approchable? Comment est-ce qu'il reste... Tu sais, on va le voir là, après ça, dans toute la semaine, comment est-ce qu'il va continuer d'enseigner dans le temple. Après ça, comment est-ce qu'il va prendre soin de ses disciples lorsqu'il va avoir le souper de la chambre haute? Comment est-ce qu'il va prendre soin encore des gens malgré qu'il va donner sa vie bientôt? Il restait approchable par les gens. Pourquoi? Parce que ce qui m'interpelle là-dedans, c'est sa compassion, son humilité et sa douceur. La compassion, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire, la compassion. La compassion, c'est une attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens en détresse. C'est ça, la compassion. À sympathiser avec eux. C'est une attitude qui invite les gens à s'approcher. L'humilité, on le voit dans ça, monter sur un ânon, un roi. C'est le seul récit dans la parole de Dieu où Jésus accepte de pratiquement le titre de roi. Parce qu'après ça, parce que c'est pour accomplir la prophétie de Zacharie qui disait « Voici, ton roi vient à toi, mais il va être rejeté par les Juifs. » Humilité, monter sur un ânon, pas orgueilleux. La douceur, c'est pas la douceur d'être faible, ça veut dire sans prétention. Sans prétention, pas d'orgueil. Ça fait contraste avec ceux qu'il va rencontrer dans la ville, les pharisiens et les scribes, qui, eux, étaient orgueilleux, qui étaient loin d'être un, mais eux autres, ils cherchaient la première place. Ils se promenaient dans des grands vêtements. Ils étaient orgueilleux. Les autres étaient loin d'être un. Hein? La parole, c'était bien important pour eux autres. Puis, sans prétention, la compassion de Jésus, savez-vous que dans les synagogues, les pharisiens, les collecteurs d'impôts n'avaient pas le droit de rentrer dans la synagogue. Les samaritains n'avaient pas le droit. Les ivrognes n'avaient pas le droit. les prostituées n'avaient pas le droit de rentrer dans la synagogue et plusieurs autres personnes. Et c'est pour ça que les pharisiens et les scribes détestaient tellement Jésus. Ils se tenaient avec les collecteurs d'impôts, ils parlaient aux Samaritains, ils se tenaient avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Ça fait que ça, eux autres, ça les confrontait leur vie. Ça fait que c'est vraiment une attitude de compassion, d'humilité, de douceur de Jésus qui faisait contraste avec l'attitude des pharisiens et des scribes de la ville. Puis le verset 41-42, ça dit, « Et comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et il dit, « Si toi aussi, au moins, ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, mais tu ne l'as pas vu. » Ému de compassion, pleurant sur la ville. Il allait donner sa vie pour eux, pour les gens de cette ville. Il voyait une ville en détresse, une ville qui a des pécheurs, des perdus, pleurer sur la ville, plein de compassion. Jésus, les gens s'approchaient de lui parce qu'ils voyaient sa compassion. Je regardais un moment donné dans Parole, puis je me disais, je regardais un petit peu les gens qui s'approchaient de Jésus. Puis pour Jésus, il n'y avait pas de questions innocentes ou stupides. Puis les gens, ils posaient toutes sortes de questions. On a regardé quelques-unes pour eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Serais-je jusqu'à 7 fois. Quand tu commences à poser des questions à quelqu'un, ça veut dire que tu es à l'aise avec lui. Hein? Tu sais, parce que nous autres, des fois, moi, je suivais mes cours des fois, puis il y avait bien des fois, il y a des questions qui me chicotaient, puis je n'osais pas trop poser la question, parce que, tu sais, des fois, je me dis, quelle sorte de réponse que m'avoir, hein? Puis les gens questionnaient Jésus. Dans un autre, un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Les gens n'hésitaient pas à le questionner. Parce que sa personnalité de compassion, d'humilité, de douceur, de prévenance. Même chose pour eux. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Elle voulait lui demander si ses fils pouvaient être un à sa droite puis un à sa gauche. C'est toute une demande, ça. Hein? C'est toute une demande. Un autre place, ça dit encore dans Luc 15, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Il fallait qu'il soit à l'aise avec lui. Il fallait qu'il ressente sa compassion. Il fallait qu'il ressente son humilité. Il fallait qu'il ressente sa douceur pour se tenir avec Jésus. Jésus, les gens s'approchaient de lui pour sa compte parce qu'il y avait une compassion spéciale. Mais les foules aussi, les foules. Dans Matthieu 9, 36, ça dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Même les foules s'approchaient de lui, émues de compassion. Puis ça dit aussi, ça dit qu'ils guérissaient toutes leurs maladies, si j'aurais continué le texte. Toute infirmité, toutes leurs maladies. Il n'y avait pas de distinction de « Ah, lui, il mérite-tu d'être guéri? Va le guérir. Lui, tu fais une bonne vie? Hein? » Mais nous autres, souvent, c'est un peu... Tu sais, nous autres, on fait souvent des distinctions de personnes. On va se tenir plus avec lui parce que, tu sais, on s'adonne bien ou, tu sais... Un autre verset qui dit dans Matthieu 14, 14, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Encore là, il ne pose pas de questions à savoir, « Lui, mérites-tu d'être guéri? Lui, mérites-tu pas d'être guéri? Lui, mérites-tu? » Il guérit les malades. Ému de compassion. Dans Luc 7, 13, c'est une femme qui venait de pendre son fils. Puis Jésus l'a vu, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il a ressuscité son fils. Il était concerné parce que les gens vivaient. Concerné. Un Jésus approchable. Un Jésus plein de sollicitude. Un Jésus qui voyait le besoin. Un Jésus qui se préoccupait des autres. Un Jésus qui voyait les gens en détresse. Puis, je le répète, la compassion, c'est une attitude intérieure qui pousse les gens à s'occuper de ceux qui sont en détresse, qui les invite à s'approcher. C'est une attitude que chacun des chrétiens, on devrait cultiver dans nos vies, qu'on devait cultiver régulièrement. La détresse aujourd'hui, j'ai jamais entendu parler autant de détresse que dans la vie d'aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'entendais jamais parler de ça, que le monde était en détresse. Là, c'est rendu qu'on a parlé de ça dans les nouvelles. Ah, tel corps enseignant est en détresse, telle affaire est en détresse. Là, j'ai regardé un petit peu sur Internet juste pour voir. C'est marqué selon le INSPQ, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. J'ai regardé quelques petits articles. En mars 2025, il disait, il y a 57% des enseignants qui sont en détresse psychologique à cause du harcèlement, à cause de la violence physique, la violence psychologique. 55% d'entre eux vont prendre des arrêts de travail. Je regardais une autre affaire en janvier 2025, 50% des fonctionnaires sont en détresse. Moi, j'agaçais une de mes amies qui était fonctionnaire, tu sais. Puis je me disais, je ne comprends pas, soyez en détresse, vous ne travaillez pas. Je l'agace un peu. Mais 50%. Puis là, j'ai regardé un autre en décembre 2024, c'était tel jeune, il dit qu'il y a une aggravation préoccupante des jeunes qui vivent de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement. Les idées suicidaires ont doublé depuis 5 ans. Les idées suicidaires ont doublé dans nos jeunes. Il y a de la détresse comme jamais. Il y a besoin comme jamais de cœur de compassion qui va inviter les gens à s'approcher. Qui va inviter les gens proches de nous, puis qui, en même temps, ça va les inviter proches du Seigneur. Des fois, on a peur de s'identifier avec les gens parce qu'on a peur que les autres autour de nous, ils nous identifient comme étant pécheurs aussi. Moi, c'était ça ma plus grosse difficulté dans ma vie. Puis c'était ça pendant 25-30 ans. J'avais de la misère à voir la personne. Moi, je voyais toujours la personne en fonction de son péché. Ça fait que je ne me tenais pas avec parce que je ne voulais pas me tenir avec son péché. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous demande de l'accueillir, la personne. Son péché, le Seigneur s'en occupera. Amen. Nous, on a à l'accueillir pour leur donner une chance d'être avec nous, puis leur donner une chance que Dieu peut les toucher, puis que Dieu peut les changer. On a à les accueillir. C'est sûr qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord à ce qu'ils vivent ensemble et qu'ils ne sont pas mariés. On n'est pas d'accord avec la drogue, avec les petits joints qu'ils fument. On n'est pas d'accord avec le mode de vie. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être d'accord avec eux. Il nous demande de les accueillir. Il ne nous demande pas d'être d'accord. Moi, aujourd'hui, j'accueille mes enfants, puis je ne vois plus leurs affaires. Ce n'est pas de mes affaires. C'est des affaires entre eux autres, puis Dieu. Puis le Seigneur, il peut s'en occuper. Il va les laisser entre ses mains. D'ailleurs, Jésus a été jugé pour la même chose que nous, parce qu'il se tenait avec les pécheurs. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Ça fait que si on est jugé parce qu'il y a des gens qui viennent chez nous et qui ne sont pas vraiment chrétiens pour les accueille, bien, faites-vous-en pas, ils ont jugé le Seigneur. Hein? Ça fait que ça nous fait, ça, c'est bon pour nous. Hein? Y en a-tu qui ont vu le film Intouchable? Le film Intouchable, c'est un tétraplégique. Tu sais, c'est pas un film qui est vraiment basé sur chrétien, mais j'avais trouvé ça intéressant. Lui, il est paralysé des quatre membres. puis il était riche, puis il veut mourir vraiment. Pourquoi? Bien, parce que ceux qui s'occupent de lui, ils le prennent pour un malade, puis ils le considèrent comme un malade, puis ils le traitent comme un malade. Ça fait qu'il est tellement désespéré qu'il cherche juste à mourir. Puis un moment donné, il y a un auxiliaire qui est engagé, un auxiliaire à domicile, puis il commence à le regarder comme une personne normale, puis il ne regarde plus sa maladie. Puis il commence à le sortir, puis il commence à vivre avec lui. Puis ça a transformé sa vie. Ça a transformé sa vie. Ça a vraiment changé sa vie. Comment qu'on regarde les gens? Quel regard on a sur les autres? Quel regard on a sur les autres? Est-ce qu'on les regarde comme des pécheurs? Ou on les regarde comme Jésus, comme des gens que Dieu aime et que Dieu veut changer et que Dieu veut transformer? Et que nous, on est là pour leur donner une chance de les accueillir afin que Dieu les touche, afin que Dieu fasse un œuvre. J'avais lu une petite histoire, c'était drôle. Il y a un petit gars qui accepte le Seigneur, tu sais, puis il s'en retourne s'asseoir, puis au côté de lui, il y a un monsieur, tu sais. Puis il avait l'air tout troublé, puis le petit gars, il dit au monsieur, il dit, Jésus vous aime, puis il dit, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour vous, Jésus? Le monsieur, il dit, moi, il dit, ça fait 30 ans que je suis diacre ici, puis depuis 15 ans, je m'occupe du comité des anciens. Fait qu'il dit, le petit gars, il la regarde, il dit, c'est pas grave tout ce que vous avez fait de mal, monsieur. Jésus vous aime. Il dit, Jésus vous aime, puis il peut vous sauver. Il y avait de la compassion, lui, hein? Je m'excuse, les diacres, hein? Quel regard on a sur les autres. Un jour, j'ai lu quelque chose dans la parole de Dieu qui m'a aidé à changer. Puis je vais vous le lire. C'est dans Hébreux 12. Ça m'a aidé à changer. Je vais vous lire ça. C'est le verset 18 à 21. Ça dit, « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent que l'on leur fût adressé aucune de plus. Car si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou le percée d'un dard, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté, etc., etc. » Fait que ça. Mais à partir du verset 22, il va dire, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion et qui est mieux que celui d'Abel. » Quand les gens s'approchent de moi, qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils ressentent la rigueur de la loi? Est-ce qu'ils ressentent l'éloignement de Dieu? Est-ce qu'ils ressentent comment est-ce que c'est encore un Dieu terrible ou un Dieu qui leur en veut ou un Dieu qui dit « touche pas, goûte pas, fais pas » Est-ce qu'ils ressentent ça lorsqu'ils s'approchent de moi? Ou est-ce qu'ils ressentent au contraire la joie, la paix, le ciel, l'espoir, l'espérance, la grâce, l'accueil? Est-ce qu'ils ressentent qu'on est approchable? Que Dieu leur veut du bien, que Dieu veut une grâce pour eux. Qu'est-ce qu'ils ressentent lorsque les gens s'approchent de moi? Et souvent dans ma vie, les gens, lorsqu'ils se sont approchés de moi, ont ressenti la rigueur de la loi. Un chrétien, ça ne fait pas ci. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça touche pas. Un chrétien. Et beaucoup de fois, on entend des chrétiens qui disent, « Ah! » Ils disent à des gens qui sont non-croyants, « Ah, on ne fait pas ça, un chrétien. » On n'a pas à leur dire rien. Ils ne sont pas chrétiens. Lorsque les gens s'approchent de moi, qu'est-ce qu'ils ressentent? Moi, j'ai commencé à travailler là-dessus, puis je travaille là-dessus tous les jours de ma vie, depuis que Dieu m'a parlé pour ça. Pasteur, je veux que les gens qui viennent chez nous, ils ressentent la grâce. Ils ressentent la paix. Ils ressentent la joie. Ils ressentent la compassion de Dieu. La compassion du Saint-Esprit. Est-ce que je suis approchable? J'ai commencé à réaliser ça en lisant ça, mais aussi en côtoyant les gens, puis on voit toutes sortes de personnes. Et j'avais fait un parallèle entre deux madames que je connaissais, puis qui venaient à l'église, puis une qui n'était pas atteignable. Elle n'était pas atteignable tellement. Là, elle disait à ses enfants, « Ah, vous devriez venir à l'église, vous devriez venir à l'église. » Puis un chrétien fait pas ci, puis un chrétien fait pas ça. Puis qu'est-ce que ça a donné au bout de 10-15 ans? Ça a donné que quand elle arrivait chez ses enfants, ils disaient, « Mais, on ne veut pas t'entendre. Tes affaires, tu restes à la porte, on ne veut pas t'entendre. » Une autre madame que je connaissais, bien que ses enfants n'étaient pas chrétiens, puis ont une quarantaine d'années aussi, elle a dit des fois, hey, « Là, il faut se parler. Là, il me semble que j'ai ça à cœur, il faut... » Puis, ils se parlaient ouvertement. Puis, après ça, les laissaient décider pour leur vie puis pour eux-mêmes. Une approche totalement différente. Une approche totalement différente. Quand on était plus jeune, on n'allait pas beaucoup avec la famille, moi puis ma femme, puis on les a rencontrés, v'là peut-être une couple d'années, v'là 2 ans, lorsqu'on est allé à un mariage. Puis là, ils voyaient qu'on était différents, puis qu'on avait changé, puis toute la quête, puis... Puis là, on a parlé de ça. Puis, ils nous ont dit, quand on était plus jeune, on n'était pas atteignable. On n'était pas atteignable parce que lorsqu'on allait dans les réunions, on se tenait tout en des chrétiens, puis on participait pas aux activités, puis on faisait pas rien. Puis eux autres, ça les faisait se sentir coupables devant Dieu. Ça les faisait se sentir cheap. Puis, fait qu'ils se tenaient pas avec nous autres, ils ne nous parlaient pas. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit avec notre famille, qu'on soit avec nos gens, qu'on soit la lumière du monde. Amen. À travers ce monde. Il ne veut pas qu'on soit caché dans... On ne met pas de lumière sous le boisseau, que ça dit. On la met là où ça l'éclaire. Là où il y a le péché, la grâce abonde. Amen. Il veut des gens qui sont pleins de compassion. Des gens qui sont pleins d'humilité, des gens qui sont pleins de douceur au milieu de cette génération. Amen. Afin que les gens, ils voient qu'il y a un espoir, qu'il y a une espérance, qu'il y a quelque chose de mieux pour eux. Amen. Amen. Fait que frères et sœurs, qu'est-ce que les gens ressentent lorsqu'ils s'approchent de nous? C'est très important. Est très important. Est-ce que je suis approchable? Est-ce que je suis approchable? Et souvent, quand je ne laissais pas trop les gens s'approcher de moi, l'ennemi est fort pour venir te dire, « Oh oui, tiens-toi pas avec les autres, là, tu sais, nous fait croire qu'on est meilleur qu'on est en réalité. Mais on est des pécheurs sauvés par la grâce. Ne l'oublions jamais. Amen. Notre Dieu nous a pardonné beaucoup de choses. Puis on a besoin encore chaque jour dans notre vie de sa compassion, de son amour, de sa grâce. On en a besoin chaque jour. Fait qu'imaginons-nous les gens autour, comment est-ce qu'ils en ont besoin encore de cette grâce, de cette compassion. Amen. On va terminer avec un chant ce matin, Gaëtan. Ce matin, si vous avez besoin ce matin de la compassion de Dieu, de la grâce de Dieu, vous pouvez vous approcher en avant et on va prier ensemble. Que Dieu fasse une œuvre. Que Dieu bénisse encore aujourd'hui. Amen. Puis aujourd'hui, je vous encourage à réfléchir. À réfléchir sur le fait, est-ce que je suis approchable? Est-ce que je suis approchable? Comment les gens me voient? Est-ce que j'ai un cœur de compassion? Est-ce que j'ai un cœur humble? Est-ce que j'ai un cœur de douceur pour accueillir les gens, ma famille, mes enfants, mes amis, ceux que je côtoie à mon travail à tous les jours. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin. On voit que c'est un monde en détresse. Un monde en détresse. Je disais tantôt ce que j'ai dit là, pour ceux qui avaient de la difficulté. Là. Mais aujourd'hui, voir un psychologue, c'est entre 6 mois et 2 ans. Ça fait que s'ils veulent parler à quelqu'un, ça va prendre du temps. Ça fait que pourquoi pas qu'on ne pourrait pas être ces gens à qui ceux qui travaillent avec nous vont pouvoir parler, vont pouvoir se confier, vont pouvoir ressentir notre compassion et vont ressentir que s'ils nous parlent, on va les écouter. Moi, j'avais un mauvais défaut, parce que j'avais un défaut de pasteur. Quand j'étais dans l'église, des fois, je parlais avec des gens, mais j'écoutais ce qui se disait là. Parce que, tu sais, on dirait que tu veux tout savoir, parce que tu veux être au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit. Puis là, la personne qui est en avant de moi, dans le fond, j'écoutais pas vraiment ce qu'elle me disait. Puis Dieu m'a montré ça, il dit, la voix, fais plus ça, fais plus ça. Parce que la personne, quand elle te parle, c'est bon que tu l'écoutes. Hein? C'est bon que tu l'écoutes. C'est comme le papa qui lisait son journal, puis la petite fille disait, paix, paix. Il dit, je t'écoute. Il continue à lire son journal, il dit, paix, paix. Mais il dit, je t'écoute. Elle dit, paix, écoute-moi avec tes yeux. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'écoute. Il n'y a plus beaucoup d'écoute. On va au restaurant, puis tout le monde parle à leur cellulaire, un en face de l'autre. Il n'y a plus beaucoup d'écoute. Les croyants redécouvrons un cœur de compassion, un cœur d'écoute, un cœur pour le Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Ici, il dit, emmenez un ânon, le Seigneur en a besoin. Mais aujourd'hui, le Seigneur a besoin de gens qui écoutent, de gens de cœur de compassion. Et je vous invite aujourd'hui à être de ceux-là. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. On te remercie qu'on a connu le ciel, on a connu l'espoir, l'espérance, la joie, la paix. Et on te prie aujourd'hui de nous donner des cœurs de compassion, de nous donner des cœurs humbles, des cœurs de douceur qui vont savoir écouter, accueillir les gens autour de nous, Seigneur, afin qu'on soit tes yeux, qu'on soit ton oreille, Seigneur, au milieu de cette génération, Seigneur. Pour ta gloire et ton honneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.